Here in Paris, every night, all night, it's like this. Of course, not everybody goes to nightclubs. Many are addicted to very few tourists know about it for nocturnal relaxation.
Le week-end dernier, à Paris, France Culture a fêté ses 50 ans. Pour l'événement, elle s'est offert le Palais de Tokyo, qu'elle a transformé pour quelques jours en un studio géant, le plus grand du monde. Le Palais de Tokyo, c'est à deux pas de la maison de la radio. À 50 ans, quand il faut attendre que tous les invités soient partis pour aller se coucher, c'est bien agréable de pouvoir rentrer chez soi à pied. À Transistor, on n'avait pas oublié cet anniversaire. Pour notre modeste hommage, on s'y est même pris super à l'avance, puisque dès février dernier, l'équipe a débarqué dans les 5 km de couloir de Radio France, armée de Zoom. Vous savez, ces curieux appareils qui, une fois allumés, retiennent tout ce qu'on leur dit. Et là-bas, on a entendu plein de voix qu'on connaissait, mais en fait, on les connaissait pas vraiment. Du coup, on a posé quelques questions et on est revenu avec plein d'histoires dans notre sac. Voici la première. Une grande femme est sortie de la maison de la radio. Elle a traversé la rue d'un pas rapide en direction du Café des Ondes, juste en face. Puis elle est entrée, une veste en cuir sur l'épaule et un gros casque de moto sous le bras. Elle a parcouru la salle du regard et s'est installée avec le confort de celle qui, cette fois-ci, n'aura pas à interroger, reformuler, rebondir et enchaîner. La seule chose à faire, c'est raconter. Cette voix, c'est Adèle Van Rett, qui présente les nouveaux chemins de la connaissance depuis 2011, tous les jours de la semaine, de 10h à 11h.
Je me souviens que quand mon père écoutait France Culture dans la voiture, je détestais ça, je voulais qu'il l'éteigne, c'est un ennui comme tous les enfants. Hein. Donc c'est pas parce que mon père écoutait France Culture que j'ai voulu travailler à France Culture. Je saurais pas l'expliquer. Alors si, j'ai toujours beaucoup écouté la radio, dès très petite, mais j'écoutais de la musique. J'écoutais une radio pour les enfants qui s'appelait Super Loustic, qui a disparu à mon plus grand regret en 85 ou 6. Et j'avais signé une pétition et fait signer une pétition à l'école pour pas qu'elle disparaisse. Donc j'étais vraiment... D'ailleurs, j'avais jamais pensé, c'est vrai. J'avais ce truc, j'aimais écouter de la musique tout le temps et j'aimais écouter de la radio, découvrir les nouvelles chansons. Donc ça, j'ai toujours beaucoup écouté la radio musicale. France Culture, ça m'est venu très tard. Ça m'est venu avant d'entrer en prépa. J'ai décidé de venir cultiver et je me suis mise à écouter France Culture. Voilà. Je me suis réveillée tous les matins de mes 3 ans de classe prépa avec la voix de Nicolas Demorand, que j'adorais, que j'idolâtrais, qui me fascinait. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai intégré l'ENS de Lyon, c'était de demander à faire un stage au matin de France Culture, que présentait encore Nicolas Demorand. Et donc j'ai fait un stage pendant 2 mois. J'ai découvert le milieu de la radio. Donc, j'étais juste stagiaire, donc je n'avais pas la parole. Mais j'ai adoré cette expérience et je ne pensais pas pouvoir la renouveler. Jusqu'à ce que 3 ans plus tard, après la grecque, je reçoive une offre de travail d'un certain Raphaël Antoven qui présentait les nouveaux chemins de la connaissance et qui cherchait un ou une philosophe. Et donc c'est un prof de l'ENS qui avait diffusé à toute la classe en agrègue cette offre d'emploi. Et j'y ai répondu et voilà, et donc après j'ai pu faire se rejoindre d'un côté la radio, de l'autre la philo en travaillant pour une émission de philosophie à la radio. C'était donc ma première expérience. Quant à ma première expérience orale, 1 an plus tard, donc après avoir travaillé en tant que collaboratrice au Nouveau Chemin pendant 1 an, on m'a proposé de faire une chronique de 10 minutes à la fin de l'émission, qui avant durait 50 minutes, là elle passait le matin et du coup sa durée s'allongeait de 10 minutes. Et donc la direction à l'époque, c'était Bruno Patino et Laurence Bloch, ont proposé de faire une chronique éditoriale, d'actualité éditoriale philosophique à la fin de l'émission. Et c'est comme ça que j'ai pris l'antenne pour la première fois. En tant que présentatrice, que j'avais été invitée une fois avant. Je me souviens donc du studio, je prends les micros. Les micros sont particuliers dans ces studios-là. Ce sont des studios qui sont généralement dédiés à l'enregistrement des dramatiques, donc les pièces de théâtre, les gens doivent se déplacer. C'est un son qui est particulier, qui n'est pas du tout le son du direct. D'ailleurs, si on y fait attention, ça n'a pas du tout la même qualité. Et donc j'avais ces grands micros, comme des cercles gris, qui venaient se coller, non pas à ma bouche, d'ailleurs presque à ma gorge. Ça fait une voix beaucoup plus grave et gutturale. Alors je n'avais pas mis de casque, donc moi je ne l'entendais pas. Mais je l'ai compris par la suite. Et j'avais très peur. J'avais très peur, alors que pourtant je travaillais avec Raphaël, donc je le connaissais. Je connaissais Sandra Laugier, mais j'étais aussi impressionnée parce qu'elle était plus légitime que moi, disons. Et je l'ai appris 24 heures avant. Donc je me suis dit, mais comment faire ? Alors que c'est pas une question de connaissance, je le sais bien, j'avais les connaissances, je les avais, il fallait être à l'aise et trouver les bonnes façons de le dire, mais quand on sait pas faire, c'est pas facile. Et je me souviens qu'à un moment pendant l'émission, je me suis mise à lire, j'avais pris quelques notes qu'il ne faut jamais faire, parce que je dis aux invités d'ailleurs de jamais lire leurs notes, et moi j'ai des notes, mais je n'ai rien de rédigé quand je présente une émission. Et à un moment, je me suis mise à lire, et en réécoutant, je me suis rendu compte que ces moments c'était le moins bien. Enfin, j'ai essayé de lire en faisant comme si je ne lisais pas, mais c'est là où, d'ailleurs, je mets en œuvre tous les jours maintenant, quand je présente l'émission, c'est ce qui m'a vraiment montré qu'on est toujours bien meilleur dans la spontanéité, quitte à chercher ses mots, quitte à hésiter, que lorsqu'on lit quelque chose de déjà préparé. Ça, je l'ai appris dès ma première expérience à la radio. J'avais très peur. Mais finalement, bizarrement, je crois que ça ne s'entendait pas trop. Alors, je serais assez curieuse d'ailleurs. J'aimerais bien réécouter ce premier direct. Mon père me dit qu'il l'a gardé et qu'un jour, il me le fera réécouter dans quelques années. Mais je pense que la voix est bien différente. Certaines personnes m'ont dit que je n'avais pas ma voix de d'habitude. J'avais une voix différente, soit plus retenue, pas naturelle, ce qui m'a beaucoup gênée. Et d'autres m'ont dit qu'au contraire, j'avais une voix qui était faite pour la radio, qui était douce à écouter. Enfin, voilà. Donc il y avait vraiment, dès le départ, des échos très contradictoires, ce qui est toujours le cas, c'est normal, hein. Les voix, ça ne met jamais tout le monde d'accord. Et c'est vrai que si j'ai travaillé dans un sens, ce n'est pas pour travailler ma voix, au contraire, c'était pour travailler vers plus de naturel. Parce que je pense que la première fois que j'ai pris le micro, et les premières fois, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une voix de radio. Inconsciemment, on se dit, voilà, là je vais poser ma voix, je vais faire prendre une voix de France Culture. Or, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et moi, ça m'a mis du temps, finalement, ça m'a pris du temps à oublier ça et à poser des questions telles qu'elles me viennent et à avoir une plus grande fluidité et un plus grand naturel dans la voix. Mais on me le reproche aussi, hein. Il y en a qui trouvent que je ne m'écoute pas assez parler d'ailleurs. Et c'est au bout de 2 ans de présentation du journal, quand Raphaël Antoven a décidé d'arrêter de présenter l'émission, que j'ai postulé. Sans savoir trop ce que je faisais, parce que c'est quand même pas la même chose de présenter 8 minutes et de présenter 50 minutes, et j'avais beau avoir travaillé pour l'émission pendant 3 ans. Voilà, je savais pas si je me sentais les épaules pour le faire, et la direction n'était pas du tout convaincue, je dois le dire. Et je me suis battue sans savoir si j'avais raison ou pas, et finalement, ils ont accepté de me la confier. Et donc, ça, c'était j'ai commencé en août 2011. Et je suis assez fière parce que du coup l'émission a non seulement gardé le même nombre d'auditeurs, mais elle en a gagné, ce qui montre que le pari a été relevé, alors que voilà, à la base la direction voulait remplacer. Ils pensaient que l'émission n'avait du succès que parce que c'était un nom, Raphaël Antoven, qu'ils voulaient remplacer par Luc Ferry ou Bernard-Henri Lévy. Et finalement voilà, on a eu raison parce que c'est bien la démarche qui prime sur le nom et ce dont on se réjouit. Hey, you know what? Et bonjour à tous, les Nouveaux Chemins sont ravis de vous retrouver en cette rentrée avec une nouvelle équipe composée des bien connus Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, ainsi que de nouvelles recrues, Mathilde Wagman, Jean-Danilou et Valentin Schmitt, à qui je souhaite la bienvenue. Cette semaine, l'émission est réalisée par la constante Midia Portis-Guérin. Les textes lus sont interprétés par l'irremplaçable Georges Clès, avec aujourd'hui à la prise de son les fidèles Élise Le et Dalia. Nouveau départ sur les nouveaux chemins qui vont pour cette 7e année continuer de créer quotidiennement des rencontres entre textes philosophiques et monde contemporain. Partager avec vous une curiosité insatiable pour l'existence dans ses moindres recoins et vous transmettre le goût de la question et le plaisir de comprendre. C'était un défi énorme, c'est clair. Puisque c'est lui qui avait créé ce nouveau concept des nouveaux chemins de la connaissance. Les chemins de la connaissance comme émission existent depuis 71. Les nouveaux chemins, c'est Raphaël qui les a créés en prenant l'antenne en 2007. C'est ça, ça durait une demi-heure à l'époque. Et la démarche a été vraiment validée, puisque le nombre de podcasts montrait bien que les gens l'accueillaient de manière très favorable. Moi-même, je ne savais pas si ce succès reposait sur la personne de Raphaël Antoven ou sur sa manière de mener l'émission. Cela dit, je le connaissais suffisamment et je voyais comment il travaillait pour savoir qu'il y avait un tel travail derrière que si c'était juste un nom et un charisme, ça ne marcherait pas aussi bien. C'est injuste de lui faire ce procès-là vu le travail qu'il fournissait. Donc oui, c'était difficile, mais je pense que j'ai une... D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça qu'on avance, je crois, c'est une forme d'inconscience. Je dis, allez, on y va, j'ai ça entre les mains, j'ai une chance énorme. Si je me plante, je me plante, mais au moins je ne vais avoir aucun regret. Et j'y suis allée. Et alors, il a fallu, pour moi, le plus difficile a été d'être tolérante vis-à-vis de moi-même, parce que moi-même, au début, je m'entendais reprendre les formules de Raphaël, ce qui est normal. C'est à ses côtés que j'ai appris à faire de la radio, donc j'avais les mêmes réflexes, les mêmes automatismes, qui ne sont pas du tout les miens d'habitude, d'ailleurs, ce ne sont pas les siens dans la vie normale. Mais c'est des automatismes de radio, on en a tous. D'ailleurs, il faut les mettre en place pour ensuite pouvoir improviser plus facilement, enfin, avoir quelques repères, quelques façons de faire quoi, avec lesquelles on est familier. Et au début, bien sûr, c'était ceux de Raphaël Antoven que je reprenais. Et je me suis dit, mais voilà, il vaut mieux faire ça que d'être terrorisé ou de rien dire. Donc c'est pas grave, j'assume le fait que bah oui, là ça va ressembler, mes questions vont ressembler à la façon dont lui les posait. Et je pense que j'ai bien fait parce que progressivement j'ai réussi à m'en libérer du coup. Voilà, comme je me suis dit, bah, puisqu'on a une personnalité bien différente, une voix différente, un esprit différent, enfin je veux dire, on n'est pas pareil, on est deux personnes différentes, donc je me suis dit, le naturel va reprendre le dessus, ou quelque chose d'une intuition va reprendre le dessus. Et ce qui est très drôle, c'est que mon troisième direct. Donc quand j'ai repris l'émission en août 2011, il y a eu lundi, mardi, deux directs. Le troisième, mon invité est arrivé avec 25 minutes de retard. Et j'étais en direct, toute neuve, toute à l'essai, enfin disons, et n'étant pas vraiment sûre de moi. Et j'apprends un quart d'heure avant le direct, mon invité, il vient d'atterrir, son avion a eu du retard, il n'a pas pu nous prévenir avant. Donc j'ai dû tenir 25 minutes en fait toute seule à l'antenne. Et ça, vraiment, je pense que ça m'a complètement rodée pour la suite. C'est que maintenant, je n'ai plus du tout peur. Je sais que si l'invité ne vient pas, je m'en sortirai. Du coup, j'ai eu une espèce de réflexe de survie qui s'est mis en place. Et je me suis dit, d'accord, bon, alors, très bien, il n'est pas là. Donc moi, j'ai telle musique, tel extrait de film. On va les mettre ensemble, je vais faire une lecture, je vais rappeler ce qui a été dit la veille. Hop, on laisse la chanson un peu plus longtemps que d'habitude, on reprend, vous êtes sur le nouveau chemin. Et il y avait toutes les directions derrière la vitre qui me regardaient en essayant de m'encourager, me demandant s'ils pouvaient venir en aide, mais ils n'avaient rien à faire. Et j'ai gardé mon sens. Sur le moment, vraiment, je me suis dit, bon, c'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre solution. L'invité est arrivé, en plus, c'était très bon, on a fini l'émission. Et c'est en sortant du studio que là, je me suis mise à trembler, je pense presque à avoir les larmes aux yeux en me disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais c'est là où je me suis dit que. C'est pour ça que j'aime autant en direct aussi, c'est que j'avais des bons réflexes. Là, pour le coup, il n'y a aucun mérite. Hein, c'est, voilà, le sang-froid a pris le dessus, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et je me suis dit, bon, ça va, je suis armée pour faire face à la situation directe, donc tant mieux parce que j'adore ça. Et du coup, c'est vrai, je sais qu'un invité, alors s'il ne vient pas du tout, c'est autre chose, mais s'il a du retard, ça m'a vite appris que c'est les aléas du direct, de l'improvisation qui me plaisent tant en même temps. Donc, je sais seulement avec quoi je commence. C'est-à-dire avant le direct, je sais quelle est ma première question, le premier élément que je diffuse. Après, je ne sais pas. Et ça, j'y tiens beaucoup. Il y a cette idée de... Bah, on prend des risques et c'est parce qu'on prend ces risques-là qu'on tire le meilleur de l'invité et de ce qu'on va construire. Ça s'entend quand quelque chose n'est pas préfabriqué. Ça s'entend quand quelque chose est fait sur le moment, je me laisse la liberté de me dire... tel extrait de film, je vais le diffuser. Si l'invité parle de ça, sinon je ne sais pas. Ou tout d'un coup, l'invité me... soulève une idée à laquelle je n'avais pas pensé, ça tombe parfaitement avec un des textes que je voulais lire et je le fais, je décide de sortir avec cette musique-là. C'est une chorégraphie, il faut voir en studio, je fais des gestes sans arrêt derrière la vitre, j'écoute, je regarde. Et ça, c'est en direct que c'est marrant parce que quand c'est en enregistrement, c'est amusant, mais alors on peut s'arrêter 5 minutes le temps de chercher un texte, t'as pas la même dynamique. Façon différente d'écouter les chemins, en tout cas la radio en général, je peux parler pour les auditeurs, enfin nos auditeurs, parce qu'on a des retours plus directs, et il y a ceux, et ça explique le succès des téléchargements, c'est des auditeurs qui vont avoir une écoute attentive, c'est-à-dire qu'ils vont pas l'écouter en direct, soit parce qu'ils sont pas disponibles, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, choisir un moment privilégié d'écoute et vraiment l'écouter, et les retours des auditeurs le montrent, des commentaires très précis sur à telle minute, telle question... tel élément, donc il y a une écoute très attentive, ce qui donne à l'émission une dimension presque patrimoniale. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est autant téléchargée, c'est qu'on veut la garder pour la réécouter comme une bibliothèque sonore. Comme en plus on parle de sujets atemporel, de portraits de philosophes qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Voilà, et cette volonté de garder quelque chose dont tu sais qu'il est précieux, parce que, justement parce que ce n'est pas un effet de mode. L'autre famille d'auditeurs que nous avons, ce sont ceux qui vont écouter l'émission, alors souvent en direct, en faisant autre chose. Il y a beaucoup d'artisans, des cordonniers, des peintres, qui écoutent la radio en travaillant. Et ça, alors je peux pas dire que c'est ce que je préfère, c'est pas vrai, mais c'est le plus attirant, parce que j'aime l'idée de me dire qu'en parlant à la radio, je m'adresse à des gens qui sont en train de faire autre chose. Ça peut paraître paradoxal, mais ça me plaît beaucoup, parce que je pense que c'est ça la radio, c'est un accompagnement. Et puis, sur 50 minutes, on a des émissions parfois qui sont très exigeantes. Il suffit que les auditeurs retiennent une idée, que ce soit un texte et une question qui suit, on se dit « Ah tiens, j'ai compris le texte », ou une chanson, quand on se dit « Tiens, que telle chanson de Renaud reprend exactement ce que dit Platon de je sais pas quoi », et bien là, ils vont faire un lien, et ça y est, c'est gagné. Ils vont dire une ou deux idées. Et ça, c'est ça qui me plaît, parce que la vocation de l'émission, c'est pas de faire cours, c'est pas de faire une conférence, c'est pas d'être scolaire, c'est de transmettre du savoir. Toutes les formes sont bonnes à prendre. C'est pour ça que moi je parle autant aussi de littérature et de cinéma, c'est parce que la philosophie n'a pas le propre de... Les philosophes n'ont pas le propre de la philosophie. Et c'est une manière de faire penser. Et c'est comme ça que je conçois l'émission, avec tout le travail de montage qu'on fait, même si c'est en direct, d'accoler des choses qui peuvent surprendre. Ce matin, on a diffusé un texte de Zola sur l'argent, c'est une semaine sur l'argent. Un texte de Zola, Aristide, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, bref, un texte de Zola, et on est sorti de ce texte-là avec un extrait de Margin Call, le film sur la bourse qui est sorti l'an dernier. Et les deux fonctionnaient parfaitement parce que c'était deux attitudes complètement opposées vis-à-vis de la spéculation financière. Voilà. Et ça, je sais que quelqu'un qui même n'écoute pas de manière très attentive, il remarque ça. Je dis, tiens, Zola, Margin Call, cinéma, littérature, déjà, alors que c'est une émission sur de philosophie, on parlait de Georges Simmel, le sociologue qui a écrit une philosophie de l'argent. Et c'est ça qui me plaît, c'est le fait de bousculer de manière douce, de bousculer avec les idées, une écoute, et qui du coup va laisser une trace dans la mémoire des auditeurs, et du coup la transmission se fait comme ça. C'est une manière créative de transmettre. C'est ça que j'adore, c'est pas scolaire, c'est presque esthétique. Vous voyez, il y a un côté, ça marche à l'intuition, à certaines idées qui vont peut-être émerger, peut-être pas, on sait pas. Et donc c'est pour ça que j'aime bien me dire qu'il y a des gens qui l'écoutent d'une demi-oreille. C'est comme quand on va au théâtre, parfois, quand un spectacle dure 2 heures, il y a bien au moins 20 bonnes minutes où on pense à autre chose, enfin, c'est normal. Et ça, ça me plaît parce que je n'ai pas envie de donner l'impression qu'on fait la leçon aux auditeurs. J'aime me dire qu'on s'immisce dans un quotidien que je ne connais pas, qui ne me regarde pas, et ils en font ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas de l'enseignement, c'est une manière de transmettre, c'est évident. Qui a parfois plus d'avantages que les cours, puisque ça s'adresse à plus de monde. Ça ne demande pas aux personnes de se déplacer. Ça ne donne j'essaye de faire en sorte que ça ne présuppose pas trop de connaissances. Ça dépend. Il y a des émissions où j'assume clairement. Quand je fais une émission sur la dialectique transcendantale de Kant, je ne vais pas faire comme si quelqu'un qui n'a jamais lu Kant ou jamais fait de philo peut comprendre. Par contre, il peut retenir la problématique générale. Mais bon. Puis aussi, j'ai envie d'amuser. Parfois, ça m'amuse de faire une émission très technique. On définit 2-3 termes et puis on y va et c'est drôle. Enfin, oui, vraiment, il y a du plaisir. Et bizarrement, ce sont souvent les émissions qui marchent le mieux. Quand je me dis, mais là, on a largué tout le monde, là, il y a 25 commentaires, génial, merci. Les gens sont en demande de ça. Bah oui, ça les tire vers le haut et puis ça les... Ils écoutent l'émission comme... Ils se rendent compte que la philosophie, c'est vrai, c'est juste une affaire de langage. Il faut apprendre à parler la langue de la philosophie. C'est comme on n'apprend pas polonais ou la médecine. Voilà, il faut apprendre un vocabulaire et ensuite on peut comprendre. Bah, la philosophie, c'est pareil. Il y a un langage, souvent propre à chaque philosophe. Mais une fois qu'on se familiarise avec ce langage, ce à quoi on a accès, ben en fait, c'est ce qu'on savait déjà. Le but, c'est pas d'apprendre aux gens des choses qu'ils savaient pas. Le but, c'est de leur transmettre des idées de manière à ce qu'ils disent « Ah mais ouais, tiens, je le savais, mais je savais pas que je le savais. » C'est ça, le but. C'est pas de la fausse maïeutique platonicienne, hein. C'est juste que, voilà, pour répondre aussi à la question « Pourquoi est-ce que... Quelle différence entre enseigner la philosophie et la transmettre à la radio ?» C'est qu'à la radio, on a la chance de pouvoir se servir d'autres disciplines que la philosophie. Et moi, pour moi, c'est complètement compatible avec l'idée que je me fais de la philosophie, qui est justement plutôt quelque chose de décloisonné, qui n'est pas uniquement dans les livres de philosophie. Et puisque la philosophie, c'est une manière de réfléchir sur les choses, de questionner les choses, de mettre, de rapprocher deux univers différents, à quoi de mieux du coup que pouvoir faire jouer la littérature, le cinéma, l'histoire, la psychanalyse ensemble. Et ça, vraiment, cette émission le permet à merveille. Donc c'est une chance.